Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue sur RLP dans Famille, justice, enfance, numéro 134. Alors aujourd'hui en France, nous avons 5 religions majoritaires. Nous sommes allés leur poser 8 questions, les mêmes questions aux 5 religions. Nous commençons aujourd'hui avec les évangélistes protestants.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Aujourd'hui avec Pasteur Benjamin, merci de me recevoir, c'est très gentil à vous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, en préliminaire tout d'abord, qu'est-ce que l'Église évangélique qui fait partie des 5 courants spirituels majeurs de France ?
Alors bonjour et merci à vous pour l'occasion qui est donnée aussi. Pour essayer d'être le plus clair et le plus direct possible, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. On est des chrétiens comme les catholiques, comme les protestants, nous sommes chrétiens, donc nous croyons dans la Bible, dans Christ comme étant le Dieu incarné, le Dieu trinitaire. Donc sur ce point-là, on s'inscrit vraiment dans la voie chrétienne. Pour nous, la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Et donc on a dit, nous on veut revenir à ça. Donc le mouvement évangélique s'inscrit là-dedans. Précisément là, à Périgueux, moi je suis pasteur évangélique d'un mouvement qui s'appelle les Assemblées de Dieu. Le mouvement des Assemblées de Dieu, c'est le plus gros mouvement évangélique au monde.
Au niveau de la théologie, que signifie le mariage, cette union de manière traditionnelle, telle qu'il est défini dans la Bible? Que signifie le mariage dans la théologie évangéliste?
Alors, comme je vous disais, pour nous, c'est vraiment la Bible qui fait foi, parce que c'est la parole de Dieu, donc on se base sur les textes bibliques. Bien évidemment, on sait que certains les interprètent un petit peu comme ils veulent. Entre guillemets, tout c'est tout, hein, on peut en faire une interprétation qui peut être différente. Pour nous, on est assez proche du texte, on est assez littéral, le mouvement évangélique est assez proche du texte, et donc on revient vraiment à l'écriture. Le mariage, c'est vraiment une alliance que Dieu veut, que Dieu a voulu, mais que Dieu veut encore aujourd'hui. C'est une alliance entre un homme et une femme. La Bible dit, depuis le départ, dans la Genèse, au tout début, quand Dieu a créé l'homme et qu'il a créé la femme, il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un, ils feront plus qu'une seule chair. Donc pour nous, le mariage a vraiment cette vocation d'alliance. Alors il y a quand même des différences là, par exemple avec le catholicisme pour nous, en tout cas pour moi, au sens où dans l'Église catholique, le mariage est vraiment une alliance qui est inviolable et qu'on ne peut pas dissoudre à aucun moment. Pour nous, il y a quand même des nuances qu'on trouve dans la Bible, des nuances où Dieu a permis, non pas Dieu a voulu, mais Dieu a permis, Dieu permet que dans certaines conditions, dans certaines situations, il y ait la possibilité de rompre ce mariage, cette alliance. Il y a une question d'alliance, il y a une question de contrat, où il y a une responsabilité mutuelle de l'époux et de l'épouse. Et quand ces responsabilités, parfois, on va en reparler tout à l'heure, mais elles ne sont plus là, il y a des circonstances qui font que, parfois, le mariage devient caduque, entre guillemets.
Est-ce que c'est une alliance purement physique ou c'est une alliance qui va au niveau spirituel, au niveau de l'âme? À quelle profondeur va cette alliance?
Il y a, me semble-t-il, alors encore une fois, je parle avec en toute humilité, mais personnellement, il me semble vraiment qu'il y a deux niveaux, il y a deux, en tout cas, deux jalons qui sont là. L'homme quitte son père, sa mère, il s'attache à sa femme. Il s'attache au sens, il y a une volonté, il y a un vœu, il y a un désir. Et quand je dis l'homme, on voit, on imagine, en tout cas, dans la parole de Dieu, on voit que même si la place de la femme dans la société à l'époque et puis dans l'histoire n'est pas toujours évidente, mais on voit qu'il y a, on va dire, il y a un consentement mutuel. Voilà, il y a un désir mutuel, il y a un vœu, une envie. Donc c'est une alliance qui est une alliance, premièrement, qui est volontaire, voilà, qui est pas forcé, mais qui est consenti. Donc il y a un consentement, un vœu, et puis il y a une alliance physique. Les deux deviendront une seule chair, une alliance sexuelle, parce qu'on croit vraiment que la sexualité vient de Dieu, qu'elle est réservée dans le cadre du mariage. Et pour nous, les deux vont avec l'alliance ou l'unité charnelle. Vient signer le mariage. Voilà, il y a cette profondeur-là.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Dans vos origines, on sait que les gens divorçaient peu. Nous sommes aujourd'hui arrivés, notamment en Europe, en Occident et en France, puisque nous en parlons, à un taux de recomposition de divorce qui est assez élevé. Il est possible... On croise maintenant des personnes qui se marient plusieurs fois dans une vie,
beaucoup de gens sont confrontés au divorce, soit eux-mêmes, soit autour d'eux. Quelle est la position du dogme par rapport au divorce? Qu'est-ce que ça signifie? Et aujourd'hui, si vous célébrez un mariage, demain il y a un divorce, l'état civil, l'état va le reconnaître, mais que va dire l'Église?
Alors c'est une question très vaste, je vais encore essayer d'être le plus concis possible, pas évident. Pour nous, le divorce, bien évidemment, je vous le disais tout à l'heure, c'est entre guillemets toujours un échec. Et c'est un échec, bien sûr, je crois, humainement, parce que quand on voit les conséquences que ça peut avoir dans une famille, quand il y a des enfants au milieu, mais même dans un couple, il y a toujours ça engendre des souffrances, etc. Donc c'est un échec humain pour nous, mais c'est aussi un échec, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à ce que Dieu veut, puisque la volonté de Dieu, vraiment, au départ, c'est que le mariage, ce soit une alliance qui soit jusqu'à la mort. Hein. Donc voilà. Donc c'est toujours un échec. Donc notre vision, c'est toujours de dire... en fait, le dogme du divorce, c'est un dogme secondaire pour nous. Le dogme principal, c'est celui du mariage. Comment préserver, comment entretenir, comment éventuellement réparer un mariage. Quand c'est pas possible, je vous disais tout à l'heure, on voit dans la Bible, c'est une réalité. Effectivement, le divorce est prescrit dans certaines situations. Quel est le dogme du divorce? Alors pour nous, pour essayer d'aller à l'essentiel, dans la Bible en tout cas, on voit trois situations qui font... on va dire quatre situations qui font que le mariage est rompu. La première situation, c'est quand il y a la mort de l'un ou de l'autre des époux. Dans ce cas-là, le mariage est arrêté. C'est pas du divorce. Voilà. Ensuite, il y a la situation qu'on semble trouver dans la Bible aussi, dès le départ, dans le livre de la loi, dans les Deutéronomes, quand Moïse parle et institue la loi, il y a une question de si un homme, une femme se marie, mais que l'homme découvre quelque chose qui est insupportable à ses yeux, et il y a une question un petit peu de découvrir quelque chose qui était caché, qui était pas, voilà, qui était pas évident, et certains s'accordent à dire, je le mets entre guillemets, ou je le prends avec des pincettes, en tout cas, mais certains s'accordent à dire que ça rentre notamment dans des cas où, eh bien, par exemple, on se rend compte, ça s'inscrit dans toute cette loi qui parle de, eh bien, si on se rend compte qu'on se marie avec quelqu'un de notre famille alors qu'on ne l'avait pas réalisé, donc voilà, des mariages qui sont, entre guillemets, on pourrait dire incestueux, mais sans le savoir. Donc voilà, ça, c'est une situation qui fait que le mariage, dans ce cas, peut être rompu. La troisième situation, on la trouve dans le Nouveau Testament, c'est notamment Jésus qui en parle, quand il va être interrogé par des chefs religieux juifs de l'époque, qui vont lui demander, Moïse ordonne que, dans certaines situations, on puisse faire une lettre de divorce, l'homme puisse faire une lettre de divorce pour répudier sa femme. Et là, Jésus va répondre à ces hommes et va leur dire, c'est pas ce que Dieu veut, hein, il faut pas séparer ce que Dieu a uni. Voilà, ça c'est un petit peu la première réponse de Jésus avant tout. Mais après il dit, effectivement, s'il y a un adultère, s'il y a à un moment donné une infidélité, et le mot qui est utilisé pour parler d'adultère là, c'est en grec, c'est le mot porneia, qui parle plus d'immoralité sexuelle au sens un petit peu large, et qui permet de dire, s'il y a une infidélité, une immoralité, le fait qu'il y a quelque chose là, effectivement, le mariage est rompu. Jésus dit, il y a plus de lien. Il y a plus de lien. Le lien peut être rompu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réparation possible. Nous, on croit que Dieu peut tout. Donc, on croit qu'il peut y avoir une réparation, un pardon, une repentance, et que c'est possible. Mais si les époux, un des époux, celui qui a été trompé, choisit de dire, c'est pas possible, le mariage est... les époux ne sont plus liés. Donc ça, c'est le divorce, un divorce biblique. Voilà. Puis, il y a une dernière situation aussi que l'on voit, c'est l'apôtre Paul qui en parle. Il enseigne là-dessus et il dit... À un moment donné, si dans un mariage, il y a quelqu'un qui est croyant, qui est un disciple de Christ, un chrétien, et l'autre qui ne l'est pas, et que celui qui ne l'est pas dise « Moi, je veux plus, je choisis de ne plus pouvoir vivre avec toi, en partie à cause de ta foi, mais peut-être pour d'autres raisons, mais en partie à cause de ça, je choisis de m'extraire de ce mariage », à ce moment-là, la personne qui était chrétienne et qui subit ça n'est plus liée, et peut donc se remarier, entre guillemets, librement. Dans toutes les autres situations, il semble en tout cas, que dans toutes les autres situations, quand c'est pas comme ça, un remariage après, c'est une situation qui met des personnes en difficulté, en tout cas, vis-à-vis de Dieu, il y a c'est comme si c'était de l'adultère. On le met avec des pincettes, encore une fois, parce que dans les mots originaux qui sont employés, on se rend compte que la porte est ouverte à certaines choses, l'abandon du foyer, il peut être peut s'expliquer de différentes manières. Ça peut être, voilà, on peut abandonner son foyer en partant, en disant « je veux plus vivre avec toi », mais on peut abandonner son foyer en tapant sur sa femme et en la mettant en difficulté, ou en frappant ses enfants. Toutes ces situations-là font que finalement, on s'extrait déjà de l'alliance qui est là. On fuit sa responsabilité, puisque vraiment, dans le principe biblique du mariage, il y a vraiment une question de responsabilité réciproque, d'amour réciproque, de prendre soin l'un de l'autre, de toujours chercher l'intérêt de l'autre avant le nôtre, etc., de considérer l'autre. Donc quand on sort de tout ça, voilà, il y a toujours un danger.
Donc un couple, en fait, qui va rentrer dans une situation de conflit avec une séparation, puis l'un des deux qui va vivre avec quelqu'un d'autre, c'est un motif de divorce au niveau de la théologie, quelque part.
Alors après, c'est du cas par cas. C'est là où ça devient compliqué.
Bien sûr.
Voilà, c'est là où ça devient un petit peu compliqué. C'est du cas par cas, mais ça peut l'être, effectivement. D'accord. Selon les situations, ça peut l'être. Mais juste par rapport au divorce civil, vous me disiez, quand il est prononcé civilement, est-ce qu'il est toujours acté au niveau de l'Église? Ben, du coup, non. Pour nous, non, effectivement. C'est-à-dire que... Alors, bien sûr, quand deux personnes sont séparées, on ne va pas leur dire, pour nous, vous êtes toujours mariés, au sens où, voilà, on comprend qu'ils sont séparés. Mais si on sort de ces trois situations que je vous ai évoquées, pour nous, vis-à-vis de Dieu, en tout cas, on ne peut pas dire que c'est un divorce qui permet un remariage, que le lien est brisé. Donc, il y a toujours le lien qui existe, parce que ce lien-là, il a du prix aux yeux de Dieu et il est réel. Donc, pour nous, voilà, il y a quand même cette vision-là, cet esprit-là.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
On va en profiter pour regarder la position des mariages multireligieux. Imaginons que nous avons quelqu'un qui se marie avec une personne d'une autre religion. Vous avez commencé à l'évoquer. On a énormément de couples mixtes en France, un homme et une femme. On peut très bien avoir quelqu'un qui est passé par... un baptême, une première communion, une profession de foi, et puis qui va se marier avec quelqu'un qui va être bouddhiste ou qui va être musulman, ou alors qui va être catholique ou protestant et autres. Le point de vue protestant sur ça, au niveau de l'accueil d'une personne d'une religion ou autre, juive, etc., quel est-il? On demande une conversion ou on l'accepte? Qu'est-ce qui se passe? C'est autorisé?
Alors, c'est autorisé dans le sens où... le mariage, ça reste la responsabilité de chacun, hein, et qu'on n'est pas là du tout pour dire aux gens « vous devez vous marier avec lui ou avec elle ou quoi ». On a, je le crois, une responsabilité de conseil. Alors moi, en tant que pasteur, mais c'est pas tellement même en tant que pasteur, mais en tant que frère et sœur, parce que pour nous, l'Église est vraiment une famille. Donc on a une responsabilité, comme on l'aurait envers notre frère ou notre sœur dans la chair, de dire « attention, cette personne-là n'inspire pas confiance ou est un danger pour toutes sortes de raisons, mais pas nécessairement à cause de sa religion, quelle que soit la raison. Par contre, au niveau de l'accueil, alors c'est pas un souci en soi, si une personne vient d'une autre religion, dans le sens où on peut pas interdire le mariage. Voilà, la Bible prescrit quand même que quand un chrétien se marie, qu'il se marie avec un chrétien. Je vous disais tout à l'heure, effectivement, Paul dit, si jamais vous êtes marié et qu'il y a un chrétien et l'autre qui l'est pas, donc la possibilité, elle est là, hein, c'est pas impossible, mais il dit aussi, le mieux, c'est de se marier dans le Seigneur, c'est-à-dire de se marier avec quelqu'un qui a les mêmes convictions que vous, parce que sinon, on va au-devant de difficultés. Et Paul dit, j'aimerais vous éviter ces difficultés-là. Bon, il y a d'autres circonstances, d'autres raisons, mais entre autres, il y a celle-ci aussi. Donc voilà, il y a cette partie-là. On conseille toujours de dire, attention, marier avec quelqu'un qui ne partage pas ta foi, ça risque d'engendrer des difficultés à un moment donné. C'est un danger. C'est un point qui peut créer des tensions, des difficultés, etc. Maintenant, pas d'interdiction formelle. Il n'y a pas d'interdiction formelle. Comment, après, on le célèbre dans l'Église? C'est du cas par cas. Dans l'Église, c'est assez particulier. Nous, les Églises évangéliques, on célèbre très peu de mariages qui sont des mariages extérieurs à l'Église, de gens qui sont extérieurs à l'Église. C'est-à-dire que dans certaines églises catholiques, etc., ça se fait beaucoup. Mais nous, quelqu'un qui arrive demain et qui me dit « voilà, on voudrait se marier dans votre église », je ne vais pas les marier ici. Je vais leur dire « si vous voulez, je peux intervenir où vous voulez pour ouvrir la Bible avec vous, etc. Mais, » mais dans l'église ici, nous, on ne va marier que des gens qui sont de l'église, qui fréquentent l'église, qui sont là assidûment, qui sont des gens issus de notre communauté. Voilà, c'est pas... par discrimination ou par sectarisme, c'est parce que il nous semble en tout cas que cette cérémonie du mariage, justement, c'est une cérémonie qui, qui se fait publiquement, mais qui mérite aussi, quand on l'a fait dans l'Église, il y a une certaine approbation qui est là, une certaine validation de l'Église qui se fait, et cette validation de l'Église, en tout cas au sens d'une voilà d'entité, ben elle peut se faire que si on connaît la situation et que ce sont des gens de qui on peut répondre entre guillemets, et voilà, quand c'est des gens qu'on connaît pas, on peut les bénir, c'est pas un problème, on bénit tout le monde, on aime tout le monde, il y a pas de souci avec ça, mais on peut pas se porter garant entre guillemets ou être là et valider la solidité, la véracité de l'union. Voilà, ce qui est un petit peu différent. Donc on le fait, mais à l'extérieur, ailleurs, mais non pas parce que l'église est un lieu saint. Nous, les locaux, c'est des locaux tout simples. Hein, c'est un ancien hangar ici. Mais voilà.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Autre cas. Nous avons quelqu'un qui est évangéliste, donc de votre église. Et vous apprenez qu'il est allé en Afrique, ou en Asie, ou ailleurs, et qu'il s'est marié avec une personne locale, selon un rite religieux local. Quelle est la position du dogme par rapport à ça?
Alors, s'il vit là-bas, et que le mariage là-bas est reconnu comme cela, pour nous, ça pose pas de souci. Dans la mesure où c'est un mariage qui est fait dans ce que prescrit la loi du pays, ou dans la manière dont ça se pratique dans le pays. Si cet homme revient ici en France avec son épouse, nous on va lui demander, même si le mariage était bon là-bas, hein, on va lui dire ici en France, le mariage c'est un mariage civil et la Bible nous enseigne d'être soumis aux autorités du pays dans lequel on vit. Donc pour nous ici en France, le mariage est civil. Moi je marie personne en tant que pasteur en France. Je bénis les unions, on peut célébrer un mariage dans le sens de la célébration, mais moi je marie personne. J'ai pas cette capacité, ce pouvoir-là au sens légal du terme. Il faut passer devant le maire ou un de ses amis.
Chez les catholiques, il y a un mariage qui est pratiqué, c'est écrit sur un registre, une validation.
Oui, tout à fait. Alors nous, on tient des registres aussi de mariage, hein, de dire ben voilà, des gens se sont mariés, on a célébré ce mariage-là. Mais ça a aucune valeur juridique et ça a aucune valeur, j'allais dire, dans l'Église catholique. Ce sont des choses qui sont remontées. Il y a des registres nationaux, etc. Et on peut aller consulter ces archives-là pour toutes sortes de raisons. C'est pas du tout le cas chez nous. Depuis la loi de la séparation sur l'Église et l'État.
Voilà. Et dans certaines religions, par exemple, si vous vous mariez selon un autre rite religieux, vous pouvez plus communier, vous pouvez plus. Enfin, il y a des incidences sur la pratique. Là, si quelqu'un est évangéliste et va se marier selon un rituel bouddhiste, il revient dans une église évangélique et il est bienvenu, il n'y a aucun souci.
Alors oui, il n'y a aucun souci sur le principe. Alors, il n'y a aucun souci sur... Je fais une nuance quand même dans ce que vous dites là. D'accord. Parce que vous me parlez d'aller dans un autre pays et de se marier selon les rites de ce pays-là. Alors, je vous parle bien d'un mariage qui est un mariage reconnu dans ce pays au sens... qui est reconnu. Je ne parle pas juste d'une cérémonie religieuse qui serait... une cérémonie religieuse, voilà. Si le mariage religieux bouddhiste est reconnu dans ce pays-là et que c'est de cette manière dont il se marie, voilà. Je vais vous dire honnêtement, j'ai jamais vu le cas de figure se présenter. Pour nous évangéliques, quand même, j'ai du mal à imaginer un évangélique qui se marierait selon un rite bouddhiste. Pourquoi ? Parce que il y a quand même des différences fondamentales dans nos croyances, le polythéisme, etc., qui font que moi, en tout cas personnellement, je ne pourrais pas participer à une cérémonie dans laquelle, le mariage est béni par des dieux auxquels je ne crois pas, qui sont pour moi des idoles, hein, voilà, disons-le clairement, etc. Donc là, on rentrerait dans. Voilà. Je dis pas que c'est jamais arrivé, mais j'ai pas d'exemple à l'esprit. Et honnêtement, si ça devait se produire, je pense qu'encore une fois, on reviendrait un petit peu à du cas par cas, où il faudrait qu'on se voit avec des anciens, parce qu'on a une gestion collégiale de l'Église quand même. Où on se voit avec les anciens de l'Église, les surveillants de l'Église, des gens qui sont reconnus et qu'on en discute et qu'on statue ensemble. Parce que là, comme ça, je suis pris un petit peu au dépourvu de vous dire, j'aurais pas une bonne manière de vous dire c'est oui, c'est non. Par contre, on a dans l'Église des personnes de plus en plus qui sont issues de l'immigration de certains pays d'Afrique qui arrivent et qui ont pratiqué un mariage qui est pas civil, parce que dans leur pays ça se pratique pas de manière civile, mais qui est un mariage reconnu où il y a toute une cérémonie où le fiancé va voir le papa de la fiancée, il lui demande la main, etc. Il y a un échange de cadeaux, une dot, il y a des choses qui sont là, enfin toute une succession de traditions culturelles qui sont là et qui font qu'à la fin il y a la célébration d'un mariage qui est reconnu par tous. Bon, le mariage il est reconnu. Donc pour nous, on va pas demander qu'ils aillent plus loin que ça si dans ce pays-là, c'est reconnu. Par contre, quand ils vont arriver en France, s'ils viennent vivre en France, on va leur dire oui, mais aux yeux de la loi ici, vous n'êtes pas mariés. Et il faut se mettre en règle. Il faut le faire. Voilà. Je sais pas si vous...
Non, je suis clair dans ce que... Je vois. Mais disons, nous avons quelqu'un qui a une pratique dans cette religion, qui s'en va, et qui tout d'un coup se met à vivre comme un local, qui va changer quelque part de religion dans ses attitudes et ses actes, ses pratiques, il va y avoir les idoles, comme vous les appelez, il va se marier civilement et religieusement, est-ce qu'il sort de la religion?
Oui, d'une certaine manière, oui, mais c'est pas à cause du mariage, vous comprenez bien. Finalement, là, c'est plus le mariage qui est le problème, entre guillemets.
Bon, le point concerné, d'accord.
Et le point concerné, voilà, le point concerné, c'est que la foi, en Jésus-Christ, pour nous, elle est exclusive. Le premier des commandements, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. » C'est ce que dit l'Éternel dans le premier des 10 commandements. Alors, quand on demande à Jésus, parce que ça, c'est dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, nous, on considère qu'on est sous une grâce particulière, c'est différent, on est sorti de cette loi juive, non pas qu'on s'en est extrait, mais dans le fait que Jésus l'a accompli. Mais quand on demande à Jésus, « Jésus, quel est le plus grand des commandements ?» Jésus dit « Il y a deux commandements qui sont grands. Le premier, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face, tu en auras Dieu seul, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, un seul Dieu. » Et le deuxième, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ces deux commandements résument tous les autres. Ça, c'est ce que dit Jésus, donc, dans le Nouveau Testament, sous la grâce. Donc pour nous, à partir du moment où on s'extrait de ces choses-là et où on commence à avoir d'autres dieux, etc., on sort de la foi chrétienne. Et c'est pas le problème du mariage, là, c'est le problème de la foi. On devient, entre guillemets, je vais dire comme ça, mais voilà, on abandonne la foi en Jésus, on devient un apostat. Voilà, le mot est fort, hein, mais l'apostasie, c'est ça, c'est l'abandon de la foi. C'est dans ce sens-là.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Bon, mais là, incidence, effectivement, incidence, quelqu'un qui fait ça, je sais pas c'est tellement si on sort de ça, parce que aujourd'hui, avec tous ces gens qui vont beaucoup sur la planète, qui se déplacent, qui se baladent, ce brassage multiculturel que nous avons, nous sommes confrontés plus souvent à ce genre de cas que par le passé.
C'est sûr.
C'est une évolution plus ou moins naturelle. Donc, disons que, on parle d'homme, la théologie, quelqu'un, effectivement, est sorti de la foi, il est bienvenu pour revenir ou il est puni?
Ah non, il n'y a aucun problème. Alors, en fait, je pense qu'il faut bien comprendre que...
Selon certains dogmes, il ne pourra pas revenir.
Ouais.
Par exemple, chez les catholiques, dans la confirmation, mon père a divorcé, il ne pouvait plus communier.
Mmh.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y avait une transgression qui avait été faite, il ne pouvait pas revenir à l'état initial.
Mmh.
Chez les évangélistes, comment ça se passe?
Alors, chez les évangéliques, mais là, je vais parler encore une fois, je resterai un petit peu. Chez nous,
oui.
Les évangéliques, on va dire, nous, les assemblées de Dieu, parce que, voilà, d'accord. Les évangéliques, c'est très très large. Mais chez les évangéliques, quand même, de manière générale, ce qui compte encore une fois, c'est la parole de Dieu. Et je vous disais tout à l'heure, nous, on est dans une alliance de grâce. Ce qui prime dans le Nouveau Testament, tout au long du Nouveau Testament, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que ça veut dire que cette grâce, elle est permissive, au sens où on peut tout faire et faire n'importe quoi? Non. Non. Est-ce que cette grâce, elle est capable d'accepter qu'on se trompe, qu'on tombe, qu'on s'éloigne, et puis que, suite à la repentance, on revienne et on soit rétabli? Je crois que oui. Je crois que oui. Donc voilà.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Est-ce qu'il y a eu des évolutions dans la théologie et le dogme au cours du temps? Parce que il y a 2000 ans, le brassage multiculturel était beaucoup moins important qu'aujourd'hui, surtout en Occident. Est-ce que la position a évolué ou est-ce qu'elle est restée figée? Est-ce qu'elle peut évoluer?
Alors, c'est par rapport au mariage ou au divorce?
Oui,
ça,
par là, au mariage, au divorce, à l'union, effectivement, devant Dieu, d'un homme et d'une femme.
Alors, indéniablement, elle a évolué. Comme je vous disais, le mouvement évangélique, c'est un mouvement qui est assez jeune, qui est issu du protestantisme, qui lui-même est issu du catholicisme. J'ai envie de vous dire, on n'a pas l'histoire assez longue pour que ça ait évolué de manière profonde, même s'il y a des évolutions. Il y a des évolutions, je crois, on évolue dans nos interprétations, dans nos compréhensions de la Bible. Alors, est-ce que c'est toujours de la bonne manière? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'à un moment donné, Luther, Calvin ont dit non, non, là, il y a des choses, on s'est éloigné, y compris, je crois, dans la vision du mariage, puisqu'on voit que dans l'Église catholique, les prêtres ne se mariaient pas. À partir des protestants, ils ont dit non, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ils ont réinstauré le mariage du clergé. Donc, même dans ces dimensions éthiques, il y a eu des évolutions. Il y a des évolutions, oui, dans la conception donc du mariage, dans la conception du divorce aussi, parce que je crois que certains disent que le divorce il est jamais possible selon la vision du mariage qu'on a. D'autres disent que ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour nous, dans certaines situations, la Bible peut le prescrire. D'autres sont encore plus libéraux. C'est le cas aujourd'hui, souvent de certaines églises protestantes qui disent mais finalement le divorce il est toujours envisageable, quelles que soient les situations. Tout s'explique. C'est plus un contrat. Ils ont enlevé la dimension de l'alliance. Pour les catholiques, c'est seulement une alliance, on va dire. C'est entre guillemets, ils me corrigeront si je me trompe, hein, mais c'est une alliance divine qui est inviolable. Pour les protestants, c'est plutôt un contrat, et quand le contrat, eh bien, on choisit de le rompre, c'est notre responsabilité. Pour nous, c'est un peu les deux. On est entre les deux. Il y a à la fois quelque chose d'inviolable de la part de Dieu, qui est voulu par Dieu, etc. Et puis à la fois aussi, il y a une responsabilité, et il faut, eh bien, conjuguer avec les deux.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
En fait, avec tout ça, comment est-ce qu'on vit dans l'approche occidentale contemporaine, avec tous ces couples recomposés? Vous avez forcément des enfants de divorcés, des divorcés qui viennent vous voir à l'église. On parle beaucoup actuellement des mariages modernes, voire homosexuels. Quelle est l'approche des évangélistes par rapport à cette modernité?
Alors, notre approche, c'est elle est, j'allais dire, j'ai essayé de peser mes mots, mais on essaye en tout cas. Alors, je suis pas sûr que ce soit comme ça que tout le monde le perçoive, mais en tout cas, on essaye que ce soit une vision équilibrée. Une vision équilibrée entre deux facteurs. Le premier, c'est le facteur de l'amour et de la grâce dont je vous parlais tout à l'heure, parce que nous sommes convaincus et nous prêchons et nous croyons et nous vivons l'amour, je vous disais tout à l'heure, non seulement pour notre Dieu, mais aussi pour notre prochain, quel qu'il soit, quelle que soit son orientation sexuelle, son histoire sociale, son histoire maritale, peu importe, entre guillemets, on se doit et on veut. On ne veut pas le faire par obligation, mais on veut aimer tout le monde et accepter tout le monde. Voilà. Maintenant, accepter les personnes, aimer les personnes, etc., ça ne veut pas dire forcément aimer et accepter ce qu'elles font et ce qu'elles pratiquent. Et dans ce cadre-là, eh bien, c'est là où on jongle dans un équilibre, de dire notre désir, c'est premièrement de plaire à Dieu, et donc de rester le plus à cheval, le plus droit possible dans ce que la parole de Dieu nous prescrit. Il y a des choses que la Bible condamne, le péché, la Bible le condamne, et finalement le divorce, c'est, je vous disais tout à l'heure, un échec, c'est pas ce que Dieu veut, on essaie toujours de l'éviter, maintenant des fois c'est pas possible, il y a des choses, voilà, c'est comme ça, on sait que c'est pas ce que Dieu veut, donc on essaie de rester toujours, de plaire à Dieu, mais on essaie aussi de dire, ben voilà, d'un côté on veut plaire à Dieu, et d'un autre côté on veut aussi que eh bien, les hommes connaissent, que ceux qui nous entourent connaissent la grâce de connaître ce Dieu d'amour, parce qu'on croit que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu avec des principes et des commandements et des ordonnances, mais qui sont là pas pour nous nuire, pas pour nous enfermer, pas parce que Dieu est un Dieu intolérant. On croit que c'est le cas parce que Dieu nous aime et qu'il veut le meilleur pour nous. Et on est convaincu de ça. On est convaincu que si Dieu ne souhaite pas le divorce, c'est parce que Dieu sait que ça produit pas forcément de bonnes choses, et que c'est pas, voilà. On sait que si Dieu, dit les unions homosexuelles, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je prescris, c'est parce qu'on croit que, c'est ce qui est le meilleur pour nous. Alors, on maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants, hein. Moi, je fais pas de jugement de valeur. Mais pour nous, il n'y a pas de différence, finalement, entre quelqu'un qui viendrait dans l'église qui serait homosexuel et qui serait hétérosexuel, dans la personne qu'on va reconnaître, il n'y a pas de différence. Mais pour nous, ce qu'on veut, c'est pas dire aux gens vous êtes homosexuel, alors on vous veut pas dans l'église, ou vous êtes divorcé, alors on vous veut pas dans l'église, ou vous êtes enfant de divorcé, alors on vous veut pas. Non, ce qu'on veut, c'est dire à tout le monde, venez, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce que vous êtes, c'est pas votre orientation sexuelle, c'est pas votre histoire, c'est pas ça que vous êtes. Vous êtes pas que ça. Vous êtes autre chose aux yeux de Dieu. il y a une autre identité. L'identité que voilà, la valeur que Dieu vous donne, elle dépend pas de ce que vous pratiquez ou pratiquez pas. La valeur que Dieu vous donne, elle dépend du fait que vous êtes une de ses créatures, que c'est Dieu qui vous a créé. Et en ce sens, eh bien oui, Dieu a des plans, des projets pour vous qui sont, la Bible le dit, hein, des projets de paix, des projets de bonheur. Et pour ça, eh bien, il nous a donné certaines limites, comme un parent peut en donner à ses enfants.
D'accord. C'était le pasteur Benjamin pour RLP. Merci beaucoup.
Merci à vous.